2050.
Tu penses que ce serait bien,
2050, toi? #2050 le podcast, c'est votre rendez-vous. Chaque semaine, une rencontre, un regard, une vision tournée vers l'avenir. En plus de 20 minutes et en moins de 30, c'est 2050 qui se dessine au fil d'une discussion. #2050, c'est parti.
Bonjour Michel.
Bonjour Rebecca.
Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de #2050, le podcast. Tu es écologue, Michel.
Oui.
Alors c'est quoi ce métier d'écologue?
Ah, un écologue, c'est tout simplement parce que, sous-entendu à ta question, je pense qu'il y a écologue et écologiste. Mmh. Un écologue, c'est quelqu'un qui pratique l'écologie, sachant que l'écologie, c'est une discipline scientifique très ancienne, beaucoup plus qu'on l'imagine, qui a été inventée à la fin du 19e siècle par un biologiste allemand qui s'appelait Haeckel. Cette science a progressé très lentement au début du 20e siècle, et puis au milieu du 20e siècle, il y a eu ce courant venu des États-Unis, New Age, qui était très sensible à l'environnement. En France ou en Europe, il y avait déjà une sensibilité, un mouvement en faveur de ce qu'on appelait à l'époque plutôt la protection de la nature. Bon, tout ça s'est un peu émulsionné, un petit peu aussi dans la mouvance de mai 68. Et on s'est mis à parler beaucoup d'écologie, et en confondant, quelquefois peut-être de façon regrettable, écologie, une discipline scientifique, et ce qu'on aurait dû appeler l'écologisme. Les deux ne s'opposent pas, peuvent être complémentaires. On peut être écologue et écologiste, mais on peut être l'un ou l'autre. C'est une démarche différente. Disons, pour faire simple, l'écologue, c'est un scientifique. L'écologiste, c'est un militant.
Mmh, d'accord, très bien. Alors, pour notre conversation, tu as choisi un lieu. Nous sommes au pôle régional des Savoies, à Rouen, rive gauche. Pourquoi as-tu choisi cet endroit?
Parce que c'est une grande maison où il se passe tout un tas de choses, et notamment, c'est une grande maison qui habite l'Agence régionale de l'environnement de Normandie, dans laquelle je crois être pour quelque chose, puisque pour faire bref, en 1982, j'ai créé une structure en parallèle au Muséum de Rouen, et en face, dans un bâtiment qui est tout à fait en face du Muséum, qui s'appelait l'Observatoire régional de l'environnement, de Haute-Normandie à l'époque, bien sûr. Et cet observatoire de l'environnement, la vocation qu'on lui donnait, c'est, je vais dire tout simplement, parce que ça paraît banal maintenant, c'est de faire essentiellement un centre de documentation sur l'environnement, puisque, suite à ce qu'on évoquait à l'instant, dans les années 70-80, le mouvement s'est amplifié en faveur de l'écologie, de l'environnement. Il y avait une forte demande d'informations. Il y avait déjà beaucoup de documents, mais très dispersés géographiquement et très difficiles à consulter. Mmh. Donc mon idée, c'était ça. C'était regrouper la documentation en un lieu unique, ou en tout cas important, dont l'Observatoire régional de l'environnement. Les choses ont évolué. J'ai quitté la structure en 91 pour devenir consultant indépendant. Et quelques années après, l'Observatoire régional de l'environnement a été transformé en agence régionale de l'environnement, donc avec un élargissement de ses vocations. Néanmoins, le fonds documentaire qui avait été réuni dans les années 80 est toujours présent ici. Il s'est étoffé, bien entendu, considérablement, mais c'est parti de là.
D'accord.
Donc c'est la raison, et pourquoi pas le dire, j'en suis assez fier.
Oui. Alors Michel, tu as écrit récemment un bouquin que je tiens entre les mains qui s'appelle « Quel foutoir la nature ?» point d'exclamation. Un recueil de nouvelles que tu as écrites entre 2008 et 2016. Ce recueil, ce livre, on peut le trouver chez les impliqués éditeurs.
Mm-hmm.
Et, alors, je vais commencer par en lire un extrait pour donner un aperçu du ton de ce livre. J'ai choisi page 31, la nouvelle s'intitule « Les économistes sont en short ».
Mmh.
Non, tous les économistes ne sont pas en vacances. Mais le titre de cette nouvelle ne devait pas être trop provocateur. En fait, comprenons. Les économistes sont un peu short, comme on dit en français, un peu court dans leur raisonnement. Toujours, ils ressassent croissance, PIB, compétitivité, alors que depuis des décennies, on essaie vainement de leur expliquer qu'une croissance ne peut pas être infinie, que peut-être faudrait-il définir ce qui doit croître, le transport de marchandises par le rail, et ce qui doit décroître, les émissions de CO2. Voilà, un petit extrait de ce recueil. Raconte-moi l'histoire de ce livre.
Ben, l'histoire, elle est simple, c'est que en fait, j'écris un blog depuis une dizaine d'années. En publiant une chronique par semaine sur des sujets d'environnement, mais environnement au sens large. Hein. Il y a de l'environnement stricto sensu, de la biodiversité, de la pollution, etc. Puis il y a aussi du social, du sociétal, de la gouvernance. Bon, c'est très large. Et ce blog donc, a donné lieu déjà à la publication de deux ouvrages, chaque fois une centaine de chroniques. Alors, c'est une redite par rapport au blog, si ce n'est que là, c'est un petit peu ordonné, agencé, pour qu'il y ait une suite un peu plus logique dans la lecture. Donc, il y a eu d'abord un premier ouvrage qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on attend ?» en interrogation, et puis un deuxième ouvrage qui s'intitulait « C'est bientôt la Renaissance ?» point d'interrogation aussi. Et selon les humeurs, selon les circonstances, ces chroniques sont... assez technique, scientifique, disons, quelquefois plus humoristique, voire ironique. Et c'est plutôt des mini-nouvelles, comme je l'ai dit, plutôt que des chroniques scientifiques habituelles.
Et comme tu le dis, on retrouve de l'humour, il citait quelques titres de nouvelles. On se fait une petite sauterelle.
Voilà.
Mon vieux poulet, Alexandre, son gros tracteur et la vieille jument. Une autre qui s'appelle « Ah, quand j'étais président !» point d'exclamation. Vite, le grand ménage. Donc c'est vraiment, ce sont des nouvelles qui interroge notre monde aujourd'hui, mais sans être dans un discours scientifique pour experts. C'est rendre accessible à tous ces questionnements.
Exactement, c'est exactement ça. Et donc là, j'ai souhaité réunir une centaine de chroniques qui étaient plutôt des mini-nouvelles dans ce volume « Quel foutoir la nature ?». Et le titre en lui-même aussi est un peu révélateur, parce que je parle de la nature, mais pas que. C'est le foutoir en général, quoi. Bon. Donc voilà la jeunesse de ce bouquin.
Ouais, alors je vous conseille vivement la lecture de ce livre qui fait sourire, mais tout en posant de vraies questions, comme je l'ai dit.
Je le pense, enfin je l'espère en tout cas. Oui.
Alors le thème que tu as choisi, que l'on développe ensemble aujourd'hui, c'est celui de la solidarité internationale, mais les solidarités environnementales. Avant de dresser un peu un constat de ces enjeux de solidarité internationale, j'aimerais que tu me définisses, c'est quoi une ou des solidarités environnementales ?
Je n'ai pas de définition toute prête, mais une solidarité environnementale, c'est, j'allais dire tout simplement, le fait que on est tous solidaires, parce qu'on est tous de la même espèce humaine, on est tous sur le même bateau, la planète Terre, et on est tous interdépendants. Et donc, si pas un individu, mais un pays bouge un peu trop dans un sens, pollue un peu trop, il en fait bénéficier, si on peut dire, ses voisins, voire des voisins lointains, puisque les pollutions se transportent, etc. Quand un pays rejette beaucoup de CO2 parce qu'il a une industrie très développée, etc., il en fait bénéficier toute la planète. Donc, c'est ça la solidarité, dans le sens où, inversement, il est souhaitable qu'on soit solidaire, on l'est un peu quand même, bien sûr, mais sûrement pas assez. Et il faut qu'on devienne plus pour que justement on puisse remédier aux problèmes qu'on peut générer au niveau personnel, au niveau de son pays, et qui a des impacts sur le voisin, sur le pays voisin, sur l'ensemble de la planète selon les cas.
Alors, il y a quelques mois maintenant, en décembre 2015, était voté l'accord de Paris, lors de cette conférence internationale sur le climat, la COP21 en France. Est-ce que l'accord de Paris, c'est ça justement la solidarité environnementale ?
Oui, absolument, sous réserve quand même qu'ensuite on passe à l'étape suivante qui est l'application. Parce que là, à la COP21, on était au plan des grands principes, des grandes déclarations solennelles, et bravo, bravo, bravo. Maintenant, allons-y. Et la COP22, c'était déjà un peu plus nuancé quand même. Et on sent bien que y a des réticences. Maintenant, on peut être inquiet parce qu'il y a un nouveau président des États-Unis qui est investi aujourd'hui qui s'exprime un peu,
l'emporte-pièce.
Comme ça. On a cru comprendre quand même que le réchauffement climatique, tout ça, c'était pas vraiment sa priorité, et peut-être même que ça n'a aucun intérêt. Donc si, à supposer que les États-Unis disent tout ça, on s'en fout et on se retire de l'accord de Paris, ce serait quand même gênant. Ce serait quand même gênant, d'autant plus que ça peut avoir valeur d'entraînement pour d'autres pays qui disent on arrête tout.
Alors, quoique la Chine, par exemple, a réaffirmé il y a quelque temps que ça devait être sur le dessus de la pile de l'agenda international.
Parce qu'on y reviendra sans arrêt, j'imagine, au cours de cet entretien. C'est un peu comme ça sur tous les sujets, mais en particulier en environnement, on peut passer du plus grand pessimisme à l'optimisme BA, j'allais dire. Mais bon, la marge est très très large. Et effectivement, ce qui se passe en Chine, à la fois c'est catastrophique. Quand on voit l'ambiance dans Pékin au point de vue atmosphérique, on se dit que nous, ici, vraiment, on est des petits plaisantins quand on a des alertes pollution à côté. Mais il se passe quand même des choses en Chine, à savoir qu'il y a un mouvement, alors je ne sais pas si ce sont des écologues, des écologistes ou les deux, mais peu importe, il y a un mouvement d'opinion publique qui est de plus en plus important, qui se développe de plus en plus, et qui dit « oh oh là, on arrête parce qu'on ne respire plus, tout simplement ». Bon. Donc ça veut dire quand même que dans un immense pays comme la Chine, qui a des immenses problèmes d'environnement, la pression de l'opinion publique peut finir par compter. Ça peut être vrai aussi aux États-Unis, c'est vrai aussi en France, c'est vrai partout sur toute la planète. C'est quand même de nous dont il s'agit, de notre sort, de nos enfants et petits-enfants bien entendu, mais c'est de nous dont il s'agit et c'est aussi nous qui pouvons nous exprimer de la façon la plus positive possible bien entendu, mais c'est aussi à nous de bouger. Tant que personne ne bouge ce qui s'est passé jusque, en gros, les années 70, 80, c'est comme ça. Ici, à Rouen, Rouen avait la réputation d'être une des villes les plus polluées de France. Ça n'a jamais été démontré, mais peu importe, c'était pollué, c'était très pollué. Ça n'a pas suscité une émotion extraordinaire jusque dans les années 70. Puis à partir de là, quand même, on s'est ému un peu. Pourquoi je tout saute, etc. Et puis, maintenant, on voit bien que, ça y est, dès qu'il y a un peu de particules fines, tout de suite alerte à la pollution et on prend des mesures. Donc il y a aussi des évolutions positives.
Alors il y a finalement deux éléments dans la balance en termes de solidarité environnementale aujourd'hui, dans ce début du XXIe siècle. D'un côté, l'action des instances internationales, on a parlé de la COP21, la COP22, et puis de l'autre côté, il y a la pression citoyenne que tu as évoquée, la pression des peuples, peut-être au-delà que des citoyens. Et ton constat aujourd'hui, il est lequel? Les solidarités environnementales, et tout concrètement, on peut dire qu'il en existe,
oui,
ou pas?
Et qui l'emporte?
Oui, aussi, dans ces deux éléments de
balance. Je suis un peu embarrassé pour répondre, parce que j'ai l'impression, parce que moi ça fait, je ne vais pas paraître plus vieux que je ne le suis, mais ça fait une cinquantaine d'années que je suis engagé dans le domaine de l'environnement. Bon, j'ai un peu de recul quand même, et il me semble toujours qu'on est dans une espèce de course de vitesse. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a, pour faire simple, des forces de dégradation, parce qu'on pollue, parce qu'on utilise notre bagnole pour rien, parce qu'on jette des papiers, parce qu'on a trop de déchets, etc. Bon. Donc il y a des forces de dégradation de l'environnement. Puis à côté, en parallèle, il y a des forces de protection, de réhabilitation, ce qu'on évoquait, la poussée des citoyens, les associations, les gouvernements, les experts, etc. Donc on avance quand même. Et on peut faire le constat puisqu'on se projette en 2050, c'est en gros dans 30 ans, si on regarde 30 ans en arrière, c'est 80-90, depuis 30 ans, il s'est passé des quantités de choses, il y a eu des quantités de mesures positives qui ont été prises. Bon. Donc, on avance sur les deux plans, mais on continue à avancer aussi sur les forces de dégradation. Et quand on voit, on y reviendra peut-être, les constats qui ont été faits récemment en matière de biodiversité, comme dit l'autre, il y a de quoi avoir les boules.
Bon. Alors justement, parlons-en de ce
alors juste pour terminer là-dessus, il y a deux éléments qui se courent l'un après l'autre, qui l'emportent. J'ai l'impression que pour le moment, c'est quand même toujours les forces de dégradation. Je le crains.
Avec l'exemple de la biodiversité, où
notamment
un nombre énormes d'espèces sont en voie de disparition. Dans l'actualité cette semaine, on entend parler de la disparition des singes, par exemple.
Des primates, absolument.
Des primates à l'horizon de 25 ans, je crois.
Oui, quelque chose comme ça. Bon, on n'est jamais sûr, mais ça, la dégradation continue et s'amplifie malgré toutes les mesures qui ont été prises. Donc, du coup, ça devient un peu angoissant parce que, bien que ce soit un peu une nouveauté culturelle, d'une certaine façon, pour nous, notamment en France, l'homme fait partie de la nature. On a l'impression...
Oui, il n'est pas au-dessus.
Il n'est pas au-dessus, on est dedans. On est dedans. Et ce qu'on a mis longtemps peut-être à comprendre, que tout le monde ne comprend peut-être pas encore tout à fait, parce qu'il y a des questions de philosophie, de religion, d'habitudes culturelles ou autres qui nous ont inculqué depuis des siècles, des millénaires, et la nature, et au-dessus, il y a l'homme. On est l'homme, les petits singes, les petites saloperies, les fleurs, les vers de terre. Bon, ça c'est pour servir. Bon. Ben oui, mais c'est pas tout à fait comme ça. On est dedans, et même si on n'en a pas conscience, et ben, on mange de la nature, on a des vêtements qui viennent de la nature, on a des meubles qui viennent de la nature.
Toute la technologie, les terres rares.
Exactement.
Exactement.
Le smartphone, bah oui, c'est un truc tout à fait artificiel, mais dedans, il y a plein d'éléments naturels. Mmh. Et donc, on vit dans la nature et avec la nature et grâce à la nature. Et à chaque fois qu'on réduit un peu la nature, même si ce n'est qu'un ver de terre, évidemment, ça ne va pas être la fin du monde, bien entendu. Mais c'est simplement pour dire que dès qu'on ampute la nature, on ampute éventuellement, on n'est jamais sûr, on ampute éventuellement un petit peu de notre avenir.
Oui. Bon. Et c'est vrai que quand on se place dans un système, en l'occurrence un écosystème, chaque paramètre a sa place, son rôle, et jouer sur l'un,
exactement,
c'est déstabiliser.
Exactement. Alors c'est plus ou moins net, il y a aussi des facteurs naturels qui interviennent, bien entendu. Il n'y a pas que l'homme, mais l'homme intervient pour beaucoup. On est quand même un peu plus de 7 milliards sur la planète, bientôt 9, peut-être 10, peut-être 11 si on va jusque-là. On va commencer un peu se serrer sur la planète.
Alors justement, 2050, dans une trentaine d'années, qu'est-ce que tu imagines en termes de solidarité environnementale? Est-ce que ce sont les forces de dégradation qui continueront à avoir un peu d'avance sur ces forces de changement?
Alors, je n'imagine rien parce que je n'en sais vraiment rien. Simplement, je pense que ce que je souhaite, évidemment, c'est que la solidarité soit maximale pour qu'on puisse, à minima, s'en sortir. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en matière d'environnement, les problèmes sont toujours extrêmement complexes, presque toujours. C'est jamais simple en tout cas, et c'est pas il n'y a qu'un faucon, il n'y a qu'un, on va taxer ceci, on va récupérer ça. Ah ben non, c'est beaucoup plus compliqué. Et comme c'est beaucoup plus compliqué, en fait, on est plutôt amené à formuler des hypothèses plutôt que de dire je pense qu'en 2050 ça sera comme ça. Je sais pas. Il y a une gamme infinie de scénarios possibles. Si on prend le plus pessimiste et le plus optimiste, le plus pessimiste, c'est que les forces de dégradation continuent, progressent, entre guillemets, progressent, mais enfin augmentent. Il y a de moins en moins de biodiversité, il y a de plus en plus de pollution, il y a de plus en plus de réchauffement. On peut imaginer, même, on peut se faire peur, le réchauffement continue. On a des craintes actuellement parce que non seulement ça continue, mais ça va plus vite que ce qu'on avait imaginé. Ça fout un peu la trouille. Ça continue comme ça, et vers 2050, peu importe, on est 9-10 milliards sur la planète, il y a un virus qui apparaît, je ne sais où, sur un coin de la planète, qui se développe à une vitesse fulgurante, qui est d'une force invraisemblable, et on fout par terre des millions, des milliards d'humains, pourquoi pas tout le monde. Et ça peut être la fin de l'humanité. Bon. Ça, c'est le plus pessimiste. À l'opposé, on peut aussi imaginer le scénario un peu plus sage, je vais dire, un peu plus réaliste, qu'on connaît sur des problématiques plus simples. C'est nous, les humains, on a toujours tendance à penser, on est toujours un peu optimiste, béat, d'une certaine façon, et ça va s'arranger. On n'a plus de fric, oui, mais on va retrouver, on va emprunter. On n'a pas de solution, oui, mais la science va nous en apporter. Il y a des gens qui cherchent, ils vont trouver. Donc, on va trouver des solutions. Donc, on attend. Puis tout d'un coup, bling, on se prend la porte dans la tête. Mmh. Et là, on se dit, ah merde, non, ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut faire quelque chose. Bon. Et je suis un peu cynique peut-être, mais d'une certaine façon, mon espoir, c'est que on va se prendre le mur dans la tête. Mmh. Et là, on va se dire, oh là, il serait temps qu'on réagisse. Mmh. On réagit, donc on prend des mesures rapides, fortes, efficaces, solidaires, parce qu'il n'y a pas que la France. La France, c'est microscopique, il faut être réaliste. On est moins de 1% de la population mondiale, et ça va encore diminuer. Donc ce n'est pas seulement la France, c'est la planète. Il faut qu'il y ait une solidarité planétaire, facile à dire, oui. À faire. C'est une autre histoire, je ne ferai pas de pronostic, mais c'est ça les deux scénarios opposés, et bah, j'espère qu'on va aller vers ça. Quoi.
Et donc il faut, dans cette hypothèse, on va dire, moins pessimiste, il faut que les forces en présence arrivent à faire émerger du consensus autour de, ben justement, de nouvelle solidarité, comment on partage l'espace, comment
ça veut dire la COP21, ça veut dire la COP22 et on applique, hein, et puis on continue. Et puis ça veut dire aussi certainement des changements drastiques dans la gouvernance. Mm-hmm. Bon, moi, je ne sais pas si je suis mondialiste, mais c'est un peu ça l'idée quand même, c'est que sans qu'on soit tous unis dans une même fourmilière sur la planète Terre, il peut y avoir des territoires, mais il faudrait un minimum de gouvernance mondiale, à mon avis, pour ces grandes questions-là. Puisqu'on le sait bien, on le voit bien, on le constate de plus en plus, ça ne se règle pas à l'échelle d'un pays, même pas d'un continent. Donc il faut un minimum de gouvernance mondiale. Alors, commençons pour nous, Français, par l'Europe, au moins. Hein, déjà, ça serait un pas, parce que là, en ce moment, ça se dégringue un peu. Mais il faut aller vers ça, à mon avis.
Alors aujourd'hui, on a des institutions internationales.
Bien sûr.
Mais qui restent, qui ne sont pas à la hauteur dans
absolument.
Leur modèle,
absolument.
Dans leur poids,
absolument.
J'imagine.
Absolument. C'est pas un autre sujet, c'est un peu en marge, mais quand on voit tout ce qui s'est passé récemment avec les migrants, avec la Syrie notamment, on voit bien que l'ONU n'est pas à la hauteur de la situation. Il s'agit bien d'un problème, même si ça ne concerne pas toute la planète, pas loin, c'est quand même un problème mondial qui devrait être géré vraiment au niveau international. Et là, on sent que, bon, bah, parce qu'il y a des modes de fonctionnement de l'ONU qui font que dès qu'un pays lève la main veto, hop, tout s'arrête. Mmh. Bon. Mmh. Donc il faut dépasser tout ça. Encore une fois, c'est facile à dire, mais on n'y est pas. On n'y est pas.
Alors, Michel, j'ai ramené un objet que je vais fouiller dans mon sac. Ça va faire que je vais entendre peut-être un peu ces bruits. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, bah, c'est dingue.
Bon.
Si, je vais le retrouver. En tout cas, bon, si je ne le retrouve pas, je peux te citer ce dont il s'agissait. C'était un thermomètre. Mm-hmm. Parce qu'on a évoqué la question...
Pas médical.
Un thermomètre pour prendre la température de l'atmosphère.
Ouais.
Et parce qu'on a un peu évoqué les enjeux du climat. Ouais. Est-ce qu'en 2050, on pourrait imaginer une solidarité climatique qui puisse... s'appeler comme ça, parce que tu as parlé des réfugiés, donc des migrations, on parle de plus en plus de réfugiés climatiques, ça aussi, ça peut, est-ce que ça va être un défi important de 2050 et de cette gouvernance mondiale?
Oui. Là, je suis à peu près sûr de ça. Mm-hmm. Maintenant, comment ça va se passer, comment on va faire, ça, là, je ne sais pas. Mais effectivement, j'évoquais un peu cette histoire de migrants là, tout à l'heure. Parce qu'avec le réchauffement climatique, qui se traduit d'ailleurs, entendons-nous bien, quand on parle de réchauffement climatique, c'est un réchauffement moyen planétaire. Donc ça ne veut pas dire grand-chose par rapport au vécu de chacun.
Oui, c'est la réalité selon qu'on vit sur une île du Pacifique.
Et il faudrait mieux dire les perturbations climatiques. Bon, c'est juste une petite précision. Parce que, comme je l'ai dit avec ironie peut-être, le réchauffement pourrait aussi nous refroidir. Je ne rentre pas dans les détails, mais simplement pour souligner encore une fois que c'est complexe et pas simple du tout. Bon. Néanmoins, Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il y a un réchauffement global, que la calotte polaire de l'Arctique est en train de fondre, plus vite et de façon plus importante que l'avaient imaginé les milliers de scientifiques qui travaillent là-dessus, parce que on a quelquefois critiqué les gens du GIEC.
Donc ce groupe international.
Ils sont critiquables parce qu'ils se sont presque toujours trompés. Le problème, c'est qu'ils se sont presque toujours trompés par défaut.
Oui.
La situation est encore pire que ce qu'ils avaient imaginé. C'est dommage. Bon, bref, juste une parenthèse. Et donc, compte tenu de tout ça, on va vers un réchauffement, on va vers une fonte des glaces, on va vers un relèvement du niveau de la mer, donc des problèmes côtiers. Tu évoquais les îles du Pacifique, il y en a déjà une ou deux qui quasiment sont sous l'eau, ou il reste une cabane ou je ne sais pas quoi. Bon, ça c'est des petits îlots, c'est des petites populations, des gens à moitié sauvages, c'est très loin.
On sent l'ironie dans tes paroles.
On va quand même pas en parler dans le 20h. Hein. Bon, ouais. Ça ne vaut pas le coup, ça n'intéresse personne. Mais il y a d'autres choses. Quand c'est sur les côtes du sud-ouest de la France, là quand même, il y a des immeubles qui vont tomber à la mer. C'est quand même plus gênant. Bon, donc là, on se pose des questions. Et puis, il y a des questions qu'on n'ose pas trop se poser, mais qui vont arriver. C'est qu'un pays comme le Bangladesh va avoir progressivement peut-être le quart, le tiers de son territoire sous la mer, avec une population qui est quand même importante. Et ces gens-là, ils ne vont pas devenir amphibies, ils vont aller où ? Ils ne vont pas aller en Inde. Les Indiens ont dit, c'est clair, la frontière est fermée, on ne passe pas. Ils vont aller où ? Peut-être bien qu'ils vont revenir aussi en Europe. Alors, on s'est un peu, j'ose dire, entraîné, on a un peu testé la gestion des migrants avec ce qui s'est passé des Syriens, du Moyen-Orient, etc., qui était une catastrophe du point de vue de la gestion. On laisse rentrer des gens, après on ne sait pas ce qu'on a, mais venez ici. Vous en prenez combien ? 10 000 ? Oh ben, moi je suis bien mieux que vous, je vais en prendre 15 000. Ah merde, je ne peux pas les loger. Bon ben, dégagez. Enfin bon, ça a été n'importe quoi, ça continue à être n'importe quoi. Ils ont été nombreux, mais c'est rien par rapport à ce qui nous attend. S'il y a la moitié du Bangladesh qui arrive chez nous, si d'autres pays, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc là, ben, je rejoins les scénarios extrêmes de tout à l'heure, soit pour faire court, on se fout sur la gueule, on va régler le problème comme ça, soit on joue la solidarité. Et la solidarité, ça va consister en quoi ? Ben, je ne sais pas exactement, mais il va falloir accueillir ces gens-là, il va falloir trouver des parades, il va falloir arriver à les loger, les nourrir quelque part, et puis il va falloir aussi arrêter le mouvement. Et donc il va falloir arrêter un certain nombre de choses pour que... Sachant qu'il y aura une forte inertie.
Ben oui, forcément.
Si on prend, comme c'est prévu, au moins les 2 degrés annoncés, qu'on va sans doute dépasser, on aura gagné ça en un peu moins d'un siècle. Pour redescendre, ça va être beaucoup plus lent. Donc on est engagé pour un bout de temps.
Donc entre ces deux scénarios que tu as proposés, alors moi, je prends le parti d'être plutôt optimiste.
Moi aussi, enfin, j'essaie, bon, en même temps, il faut être réaliste.
C'est ça. Et donc, en 2050, des solidarités, dont une solidarité climatique, qui finalement auront un impact énorme, parce que ça veut dire que ça veut dire lire l'ensemble des politiques publiques à l'aune de l'impact climatique, des conséquences en termes de répartition des populations et comment on vit ensemble, finalement.
C'est exactement. Mais ensemble, au niveau de la planète.
Voilà, à une échelle planétaire.
D'accord. Et c'est ça qui va être difficile, parce qu'il y a des différences culturelles, ethniques, religieuses, politiques, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Donc, il faudra y aller nécessairement de façon progressive. Et c'est pour ça que moi, je souhaite depuis longtemps, mais ça n'en finit pas de venir, qu'il y ait un minimum de gouvernance mondiale pour certaines grandes questions, pour commencer. Alors, on ne va pas traiter tout d'ensemble. Tout ensemble, je veux dire, c'est pas envisageable.
Eh bien, on a du pain sur la planche pour les 30 ans.
Il y a du boulot, mais je reste, comme je disais tout à l'heure, de façon cynique peut-être, mais je reste optimiste parce que l'histoire a montré quand même que... un pays, une société, une civilisation, on est capable de s'en prendre plein la gueule, mais justement, quand ça arrive, souvent on réagit, et à ce moment-là on dit « Oh là, l'erreur, il faut changer ».
Très bien. Alors pour finir cette conversation, Michel, je te propose de formuler un vœu pour 2050.
Et ben, le vœu, ce serait que dès maintenant, on prenne des mesures beaucoup plus drastiques, beaucoup plus efficaces. Et ça va un peu à l'encontre de ce que je pense d'une façon générale. Moi, je suis plutôt pour le maintien des libertés, bien entendu. Mais j'avais écrit une chronique sur mon blog il y a déjà longtemps qui s'appelait « Vers une dictature écologiste ». Et je crains un peu, ou je me demande, s'il ne faudrait pas, à un moment donné, il y a ceux qui ont compris, qui sont prêts à faire quelque chose, qui veulent suivre, ok, on y va. Puis il y a les autres, les récalcitrants, et peut-être qu'un jour, il va falloir les contraindre, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Sinon. Alors, ce n'est pas vraiment un vœu, mais c'est peut-être une condition un peu parallèle. Quoi. Mmh. Et le vœu, bah, c'est que, pour faire court, je dirais, c'est que les hommes deviennent véritablement humains, conscients d'appartenir à la même espèce, conscients d'appartenir à la nature, d'être dépendants de la nature et interdépendants, et que, pour faire alors du coup très court, on a un choix à faire, soit on crève ensemble, soit on survit ensemble.
Très bien, donc devenons humains. Merci beaucoup Michel pour cette conversation. Cet épisode de Hashtag 2050, le podcast est déjà terminé, mais on se retrouve très vite, dès la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre. Et d'ici là, soyons toujours curieux.